Vous écoutez France Culture, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier.
Alors vous parlez vous également d'une élection présidentielle qui a lieu en ce moment, voilà, en Colombie.
Autre élection.
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Autre élection, autre climat, Iván Duque, 54%, nouveau président contre Gustavo Petro, 42%. La droite domine toujours en Colombie pour conduire la relance économique et assurer ou assumer le tournant de la paix. Bonjour José Rodriguez.
Bonjour Xavier.
Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes doctorant à l'EHESS sur l'Église catholique et conflits armés en Colombie. Justement, première présidentielle post-conflit avec les FARC, victoire de la droite dite dure avec Iván Duque, l'économiste qui l'emporte donc avec 2 300 000 voix supplémentaires sur l'ancien guérillero reconverti Gustavo Petro, incarnation lui d'une nouvelle gauche colombienne. Alors tout semblait les opposer hein, sur l'économie, sur l'accord de paix avec les FARC, avec l'autre guérilla, l'ELN, mais l'enjeu est le même, il est sociopolitique. Sans les FARC, il faudra compter avec une demande sociale renouvelée des classes les plus basses, 30% d'habitants pauvres, et le contre-exemple du Venezuela comme élément important de la campagne. Alors percée de la gauche ou renfort de la droite. En tout cas, ce qui est étonnant dans cette élection, première remarque, José Rodriguez, c'est que c'est une victoire du consensus. Vous êtes le président, nous sommes l'opposition, une reconnaissance par Gustavo Petro.
Je crois que c'est bien dit et c'est une victoire aussi pour la démocratie colombienne qui a permis dans ce deuxième tour une participation importante de presque 53%, parce que la même participation du premier tour. Et avec une dévotation record tant pour Duque comme pour Petro, c'est la première fois qu'un candidat de gauche atteint les 8 millions de votes en Colombie. Et la première fois aussi qu'un président est élu avec 10 millions de votes. Donc c'est une victoire aussi pour la démocratie, c'est une victoire aussi pour le peuple colombien. Donc dans ce sens, il n'y a aucun doute de la victoire de Duque. Et on voit aussi le bon sens aussi du côté de ouais. Petro, de reconnaître aussi les résultats, de se mettre à l'opposition, mais avec une opposition très importante, avec une votation de 8 millions de votes qui sera très important maintenant quand il deviendra sénateur de la République, aussi avec sa formule vice-présidentielle, Ángel Robledo.
Et bon sens, vous disiez, c'est également ce à quoi a appelé les FARC, reconvertis en parti politique également. Bon sens, cet appel à Iván Duque pour poursuivre, même s'il est revisité l'accord de paix. Justement, ce Iván Duque, on peut en dire un mot, ce sera le plus jeune président de Colombie depuis 150 ans au moins. C'était un peu ça le choix historique, rétablir la gauche depuis 60 ans ou choisir ce jeune président. Il a 41 ans, il en aura 42. Il dirige le Centro Democrático. Mais on le dit allié à la droite dure, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire que derrière lui, il y a toute la force de l'uribisme, toute la force de Álvaro Uribe, l'ex-président colombien, et qui représente, voilà, qui représente une manière particulière de concevoir, de comprendre la politique en Colombie, et qui a été aussi le symbole de la lutte contre les FARC au début des années 2000. Donc c'est une voie conservatrice, c'est une voie un peu militariste, ce qui a fait l'ex-président Uribe. Et c'est aussi une droite qui va jouer un rôle très très important maintenant au Parlement. Et de manière particulière aussi dans la mise en place des accords de paix avec les FARC.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'il y a eu des élections législatives le 6 mars et que justement on a vu lors de ces élections une percée de cette droite dure, Cambio Radical, qui a gagné quelques dizaines de sièges quand même et avec lequel doit compter aujourd'hui ce président, pourtant centre-droit.
Tout à fait. Maintenant, si on fait un peu la somme des forces qui peuvent faire alliance avec le Centro Democrático, on peut atteindre facilement le 70% des forces dans le Parlement, parce qu'il y a avec les Centro Democrático, il y a aussi Cambio Radical qui peut faire des alliances avec eux, mais il y a aussi le Parti Libéral, un bon parti du Parti Libéral, il y a aussi le Partido de la U qui peuvent aussi s'entendre, surtout pour des questions essentielles de la politique colombienne, notamment pour la question de l'accord de paix et pour des politiques économiques en général.
Et d'un autre côté, de toute façon, projetons un peu, mais si Gustavo Petro avait été élu, il aurait eu des difficultés à gouverner parce que seulement 6 députés de son parti ont été élus en mars dernier.
Tout à fait, ça aurait été très difficile pour le gouvernement de Petro, même si à l'intérieur aussi de Parlement, il y a 27 ou 30% des forces alternatives, plus et quelques membres aussi du Parti libéral et du Parti de l'AU qui pouvaient aussi bouger entre la droite et la gauche. Donc c'était une majorité relative, mais qui, comme vous dites, c'était pas trop clair. Ça aurait été pas très facile pour Petro de gouverner avec cette opposition de la droite.
Et il y a certains analystes qui ont dit pendant la campagne que les candidats se distinguaient peut-être moins par leur programme ou autant par leur programme que par leur style et leur style de campagne. Une chose intéressante aussi, ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que je disais tous les opposent en introduction, mais finalement leur discours s'est un peu recentré. Ces deux candidats.
Oui, on a assisté surtout dans ces trois dernières semaines avant le deuxième tour d'un recentrement des deux postures, tant de la droite que de la gauche, et précisément parce qu'il y avait la votation, il y avait la votation de Fajardo, le troisième candidat, qui était une votation quand même de 4 500 000 personnes. Et donc les deux côtés, la droite et la gauche, ont voulu récupérer un peu cette votation. Donc pour essayer de récupérer cette votation, ils ont voulu aller un peu plus au centre.
Alors mettons qu'il y avait une stratégie électorale. De ce point de vue-là, quelle prochaine mesure il faudrait attendre de ce président Iván Duque? Est-ce que ça va être la continuation du modèle économique tel quel, sachant que Gustavo Petro proposait d'en sortir ou de le modifier? Bon, Iván Duque fait quelques propositions sur une économie de nouvelle génération, dit-il, ou d'abord cette correction qu'il veut apporter à l'accord des FARC, et qu'est-ce que ça impliquerait?
Donc au niveau économique, ça, on peut s'attendre à une continuation du modèle. Il y a le modèle extractiviste, voilà, du pétrole et des hydrocarbures et des minéraux, mais aussi la diminution d'impôts pour les entreprises. Donc ça sera un gouvernement qui va, à mon avis, approfondir le modèle néolibéral. Donc de libre marché aussi, de moins d'intervention aussi de l'État sur l'économie du pays, un grand soutien aux entrepreneurs du pays, mais qui va se centrer au niveau social, au niveau plutôt politique, sur la question de l'accord de paix qui a beaucoup compté pour ces élections. Disons, on croyait au début que la question du conflit armé et les FARC n'allaient pas être décisifs comme élément pour ces élections, mais à la fin, on a vu que c'est un élément qui a beaucoup compté.
Oui, parce qu'on dit qu'une partie des Colombiens se sentent un peu trahis par un accord de paix qu'ils jugent incomplet. Il y a cette proposition, justement, d'Iván Duque de punir les criminels et les chefs des FARC qui appellent criminels, qui auraient trempé dans le trafic de drogue. Et est-ce que ça met en danger l'accord à terme et les négociations en cours avec l'autre guérilla, le LN?
Ça va produire ils ont un contexte dans lequel les membres du parti des FARC vont essayer de rejoindre, voilà, de parler avec le nouveau président, mais dans lequel ça sera très difficile de faire avancer les accords de paix. Ça sera très difficile pour Duque de détruire les accords de paix, comme on a dit il y a quelques semaines, mais ça sera aussi très difficile d'avancer plus et d'avancer plus vite. Donc ça, je crois que ça, on peut pas dire que ça va mettre en danger les accords de paix, mais que ça va ralentir encore plus la mise en place. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Il y a un autre élément aussi qui a les négociations avec l'ELN, et que selon les dernières déclarations de Duque, il est possible qu'il va aussi arrêter ces négociations avec l'ELN.
Des négociations qui devaient reprendre à la Havane pour un cinquième cycle, je crois, le 26 juin. Alors, quelle correction est-ce qu'il pourrait apporter, est-ce qu'il peut espérer apporter sans briser ce consensus, Iván Duque?
Pour le LN
Pour le LN ou pour les FARC?
pour les FARC, les corrections les plus importantes, ça serait d'envoyer en prison, ou de vouloir envoyer en prison, les chefs de guérilla et les guerrilleros qui étaient impliqués dans des crimes graves contre l'humanité, et d'empêcher et barrer la possibilité d'entrer aux chefs des FARC dans le Congrès, dans le Parlement. Ça serait un peu les deux éléments. Et aussi des transformations dans les tribunaux de justice spéciales pour la paix, et de manière particulière. Et de reste, de bloquer les autres réformes qu'il y avait, surtout pour la question agraire, pour la question de la question de la drogue, etc.
Bon, mais à suivre le prochain discours d'Ivan Duque, qui aura lieu certainement dans quelques heures. Merci beaucoup pour aujourd'hui, beaucoup de perspectives. José Rodriguez, je rappelle votre thèse, Église catholique et conflits armés en Colombie à l'EHESS.